Bienvenue dans ce 8e épisode de Mathé Radio, un rendez-vous mensuel proposé par l'Institut Chevreul, une fédération de recherche sur la chimie et les matériaux qui donne la parole aux doctorantes et aux doctorants de ces laboratoires. Une émission présentée par moi-même, je m'appelle Elisa Després et je suis chargée de médiation scientifique pour cet institut. Aujourd'hui, on va parler de protection du bois lors d'incendies de forêt et pour traiter ce sujet, je suis en compagnie de Sabatino Carolini. Bonsoir Sabatino.
Bonsoir. Bonsoir Elisa, merci pour l'invitation, bonsoir à tout le monde.
Tu es doctorant en deuxième année de chimie des matériaux. Ton sujet de thèse s'intitule « Système de protection à faible impact environnemental pour réduire la vulnérabilité des bâtiments aux incendies à l'interface forêt-habitat », un sujet totalement d'actualité. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ton sujet et quel est son but ?
Oui, absolument. Alors... En pratique, il faudrait trouver des solutions à faible impact environnemental pour protéger les bois lors des incendies à l'interface forêt-habitat. Ça veut dire des bâtiments qui se trouvent proches de la campagne et des zones avec à haute concentration de végétation qui sont plus vulnérables à des incendies des forêts. Pour protéger les bois, il faudrait développer un revêtement ignifuge. Et donc, le but de ma thèse, c'est trouver un moyen pour protéger les bois dans ces cas-là.
Et donc, tu as une directrice et un directeur de thèse, c'est bien ça ?
Oui, comme tous les doctorants, j'ai une directrice de thèse qui travaille à l'Institut Chevreul, qui est Sophie Duquesne. Une co-directeur à l'Université des Corses et un co-encadrante qui est Fabien Sama à Centrale Lille.
D'accord. Et alors aujourd'hui, est-ce que tu peux nous faire un état des lieux de la situation ?
À niveau global, alors on peut dire que les températures depuis les derniers deux siècles sont augmentées. L'augmentation de la densité urbaine est de plus en plus un facteur de risque pour des incendies. Et donc, on a vu des exemples réels dans l'histoire, dans les années passées, notamment, surtout au Canada, en Australie et dans certaines zones des États-Unis, Californie surtout, et Los Angeles, dernièrement, c'est un de ces événements catastrophiques. Donc, il y a une augmentation et une tendance à avoir de plus en plus des incendies qui sont des incendies catastrophiques et on l'appelle des méga incendies, donc vraiment difficile à gérer et à confiner. Et c'est surtout des incendies qui partent et qui se développent et se propagent grâce à les forêts, donc à la végétation. Et quand des incendies trouvent un bâtiment, c'est là qu'il faut travailler.
D'où la nécessité de ta thèse.
Exactement.
Et alors, tu travailles sur quel type de revêtement ?
Alors, nous, on l'appelle scientifiquement, ça s'appelle des revêtements intumescentes. Parce que l'intumescence, c'est un phénomène qui est appliqué et qui protège bien surtout les bois et l'acier. Donc sur les bois, l'objectif c'est de trouver un revêtement intumescent. Et aujourd'hui, l'intumescence c'est un phénomène assez connu. Ma challenge, on peut dire que ça vient d'utiliser des produits les plus possibles biosourcés et qui sont verts et donc qui sont pas des polluants, voilà.
Et donc, sur quel type de bois tu travailles ?
Alors, moi, je travaille en particulier sur du sapin blanc. C'est une espèce qu'on trouve en Europe, dans des latitudes, comment on peut dire, jusqu'à l'Allemagne.
Okay.
Mais j'ai vu qu'ils sont des espèces qui ont été implantées aussi jusqu'à des pays scandinaves.
D'accord.
Et j'ai travaillé sur ça parce que c'est un des bois les plus utilisés lors des constructions.
Ok. Et est-ce que la formulation, elle change en fonction du type de bois?
Alors normalement non, parce que il faut trouver une formulation qui est adaptée pour chaque pour tous les bois en général. Mais c'est vrai que la composition du bois, déjà les bois c'est divisé en bois soft et en bois dur. Donc déjà là on peut imaginer que la façon de brûler du différent bois c'est pas pareil, voilà.
Et du coup, la différence, enfin, c'est quoi la différence avec la peinture qu'on peut acheter en grande distribution ?
Comme je l'ai dit avant, en fait, la peinture sur laquelle je vais travailler, c'est issue de la biomasse, donc des produits biosourcés. Et c'est ça le but, de trouver une solution qui est valide, mais avec des produits qui ne sont pas des polluants. Alors que dans des formulations qu'on trouve commerciales, voilà, il y a, vu qu'ils sont vendus, on n'est pas à l'échelle des recherches, on est à l'échelle concrète. Donc ça veut dire qu'une peinture de ce type-là, si appliquée au bâtiment, doit protéger les bâtiments. Bon, là, on utilise plutôt aussi des produits halogénés, des produits qui ne sont pas super pour la santé et pour l'environnement.
Et donc le but, c'est de faire un coating?
Oui, exactement.
Concrètement
C'est une peinture, c'est un revêtement en forme de peinture, c'est juste ça.
Et il faut quatre composants, c'est ça ?
Pour les procès, pour les phénomènes, pour avoir un phénomène entumescent, oui. Les quatre composants, c'est normalement un liant, donc une colle qui garde tous les additifs ignifuges ensemble. Et après, on a les additifs réels qui sont une source d'acide, une source de charbon et un agent gonflant. Et lors d'une dégradation, en fait, les produits ont un certain synergisme qui permet d'avoir le développement d'une couche protective. Ouais.
Et donc, cette couche, elle va gonfler ?
Exactement, c'est l'agent gonflant qui, lors de sa dégradation, libère des gaz, par exemple l'ammoniac ou des CO2 ou de l'eau, du vapeur d'eau, qui vont faire gonfler tous les restes qui par contre va réticuler et va former donc ce qu'on appelle un char, donc une couche de charbon qui est isolant.
Ok, et donc pour savoir tout ça, j'imagine que tu fais des tests.
Oui, exactement. On fait des tests, plus précisément, on fait du mass loss cone en anglais. C'est un calorimètre à cône constitué par une résistance chauffante qui va impacter sur la surface de l'échantillon. Et donc, on a un flux de chaleur radiative qu'on va mesurer. Et le signal qu'on va obtenir, c'est en fait la vitesse des libérations de chaleur de la part de l'échantillon et donc de la peinture aussi. Donc, si on voit une diminution soit des temps d'ignition, soit des. Pour être un peu. Pour simplifier, du pic des dégagements de chaleur, alors ça veut dire qu'on a réussi à développer une peinture que. Fait son travail, on peut dire.
Ok. Alors toi, tu fais de la formulation, mais aussi de la synthèse. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement c'est quoi la formulation et la synthèse et la différence des deux ?
Oui, alors, à la base, c'est un peu la même chose parce qu'il faut mélanger des différents composants. Mais la formulation, c'est plutôt... C'est vraiment un peu comme de la cuisine quand on fait un gâteau. On va mélanger beaucoup de composants ensemble pour avoir une chose qui est une dispersion, donc pour différentes applications, on peut dire. La synthèse, c'est plutôt un niveau moléculaire. Mm-hmm. Donc, ça implique de connaître la chimie et partir de les réactivités des différentes molécules pour transformer ces molécules en des autres molécules ou même des matériaux.
Et alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler des avancées de ta thèse ?
Oui, pourquoi pas. Alors, moi, j'ai commencé l'année dernière. Je suis arrivé ici en France en décembre 2023. Donc, ça fait presque un an et demi. Et pour le moment, on peut dire qu'au début, la première partie du doctorat, c'est comprendre comment faire ta thèse, en fait, et trouver les moyens pour avancer. Et maintenant, j'ai trouvé des parcours que je suis en train de suivre. Et on a déjà quelques petits résultats vraiment modestes et que j'espère d'améliorer. Et voilà.
C'est plutôt positif alors.
Oui, oui, on peut dire comme ça.
Et à terme, est-ce que c'est une solution que l'on pourra rajouter aux constructions actuelles?
Bon, ça, c'est vraiment les buts finaux. À un niveau industriel, ça sera sympa, pas mal de penser ça, d'avoir vraiment d'arriver à ce point-là. Mais normalement, c'est pas si simple de trouver une solution qui est déjà très bien pour être appliquée à un niveau industriel et être vendue. Donc, c'est difficile, je pense pas.
Dans ta thèse, il y a également l'idée d'un faible impact environnemental. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est important pour toi?
Oui, exactement. C'est les focus de ma thèse. C'est pour ça qu'on part de la biomasse, notamment des raisins, donc de l'industrie de tous on peut dire les produits collatéraux qui sont gaspillés à partir de l'industrie du vin. Donc soit les rameaux qu'on peut couper dans la vigne, soit les marques des raisins lors de la production du vin. Et le but, c'est d'extraire cette biomasse des produits importants et après les modifier ou l'utiliser tels quels pour développer cette formulation, donc cette peinture.
Ok. Bah, merci Sabatino pour ces premières réponses. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale avec le morceau choisi par Sabatino. C'est Meraviglioso de Domenico Modugno, écrite en 1968.
Mi è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porta via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso il bene di una donna che ama solo te. Meraviglioso la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino. Meraviglioso, meraviglioso. Thank you.
doni ti hanno fatto, mi hanno inventato. Mare, tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, meraviglioso. Sapore della vita meraviglioso, 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 meraviglioso.
De retour pour la deuxième partie de cet épisode de Mater Radio sur Radio Campus. Je suis toujours en compagnie de Sabatino, un doctorant de deuxième année. On vient d'écouter Meraviglioso de Domenico Modugno. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette chanson ?
Ah, bien sûr. Alors, la chanson, j'ai choisi parce que ça donne vraiment une réflexion sur les temps qu'on passe aujourd'hui. Surtout, bon, d'un côté, parce que les chansons d'aujourd'hui sont petit à petit plus prives des significations, alors que là, on trouve une chanson riche de ça, et surtout d'optimisme, et de quelqu'un qui explique, qui fait réaliser à un autre combien la vie est belle, combien il faut toujours remercier pour chaque jour qu'on a dans notre vie, voilà.
Alors Sabatino, tu es italien, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé de venir en France ?
La décision c'est simple, en Italie la recherche ça fonctionne pas très bien et du coup j'ai étudié 5 ans de façon vraiment dure et j'acceptais pas trop d'être sous-payé et dans des conditions de labo aussi parfois catastrophiques, on peut le dire. Du coup, en France, ça s'est passé un peu mieux. C'est pas la Suisse, mais c'est quand même un des pays en Europe dans lesquels la recherche est plus financée. Donc, c'est pour ça. Et après, parce que j'ai trouvé ma thèse, et c'était un sujet complètement nouveau qui m'a poussé, qui m'a fait être encore aujourd'hui motivé.
Et tu es arrivé en France il y a combien de temps, du coup ?
Décembre 2023. Et bon, c'est ma première expérience à l'étranger.
Ok.
Ouais, voilà.
C'est un gros changement de vie quand même. Comment tu le ressens ?
Alors, je peux te dire oui et non en même temps. Parce que, bon, là, déjà la culture qu'on a en commun, oui, c'est différent, mais c'est pas énormément différent de la culture italienne, donc on a toujours des européennes, ça c'est son, voilà. Mais de l'autre côté, oui, parce que je suis tout seul, ma famille est en Italie, ma fiancée est en Italie. Bientôt elle va venir en France et du coup comment je les ressens pour le moment je les vis assez bien je suis venu ici pour le travail donc c'est sur ça que j'ai cherché de me concentrer et voilà le travail ça se passe bien donc la vie aussi des collègues, des amis donc je suis content.
Et alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours?
Alors oui, moi, de base, je suis chimiste et organicien. Donc, j'étudiais à l'Université des Roms, à la Sapienza. J'étudiais 3 ans chimie normale, générale. Et après, j'ai pris une spécialisation en chimie organique et biomoléculaire. Et dans laquelle on a vraiment beaucoup étudié et approfondi tout ce qui est à niveau physico-organique, à niveau moléculaire, et donc comment la matière se comporte, comment la matière fonctionne. Et Mais voilà, on peut dire que la majorité des personnes qui étudient chimie organique, au final, va travailler ou faire des doctorants, des recherches dans des situations de médicaments ou industrie pharmaceutique, on peut dire. Et moi, j'ai voulu une chose différente. Et alors, les matériaux, j'ai trouvé que les matériaux, c'était une bonne compromis, une bonne chose pour donner mon contribut à la société, toujours, mais sans un aspect de santé. Voilà, dans des façons différentes.
C'était une évidence pour toi de faire une thèse ?
Non, parce que j'étais indécis jusqu'à la... Ben, pas la fin, mais j'ai passé quand même 6 mois après mon master, dans lesquels j'ai travaillé, j'ai fait un stage en volontaire, des volontariats, on peut dire, j'étais pas salarié, pour clarifier mes idées dans un laboratoire de recherche qui s'occupait de ça, donc synthèse pour développer des matériaux. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais travailler dans la recherche. Donc je n'étais pas encore convaincu de faire une thèse, je ne savais pas. Et au final, voilà, j'ai trouvé la thèse comme je l'ai dit tout à l'heure. Et même pour des raisons des positions de travail, donc un doctorat c'est demandé parfois pour arriver à des positions plus importantes et plus sympas, on peut dire. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé au final de faire une thèse.
Et alors, au quotidien, est-ce que, enfin, concrètement, ton quotidien, c'est quoi ?
J'ai pas des journées fixes, standard. Chaque journée peut varier. Peut-être qu'il y a la journée dans laquelle je suis en rédaction où je m'occupe d'acheter les produits dont j'ai besoin. Ou les journées que je passe toute la journée au labo et je n'ai pas non plus le temps de voir mes mails. Donc ça dépend vraiment de les choses que je vais faire.
Tu dirais que c'est 50-50 ou...
Je sais pas. Ça dépend vraiment de la période.
Et est-ce qu'il y a une partie que tu préfères dans ce que tu fais aujourd'hui ?
Oui, d'envisager des solutions nouvelles, de trouver toujours des couplages des produits et au final de les tester pour voir qu'est-ce que ça donne. Ça, c'est la partie. Et après, de ça, partir... avec une réflexion et comprendre les mécanismes ou pourquoi j'ai obtenu cet résultat ou l'autre.
Tu nous parlais de rédaction. Concrètement, c'est quel type de rédaction ?
Bon, alors pour le moment, je n'ai pas des articles à écrire. Donc, c'est plutôt des rédactions d'abstract à envoyer à des conférences, donc pour participer, pour être évalué. Et ouais, c'est plutôt ça. Parfois un peu de biblio, que ça sera nécessaire pour ma thèse. Et oui, c'est plutôt ça.
Est-ce qu'on apprend à rédiger ou c'est quelque chose qu'on...
Ben oui, on apprend parce que après ça dépend de combien, par exemple, des rapports des thèses ou des choses comme ça on a déjà fait dans notre parcours étudiant. Donc moi, je peux dire que j'écris juste une thèse des 30 pages, donc un petit rapport, on peut dire, après les 3 ans de chimie générale. Et après, la thèse des masters, c'était quelque chose d'un peu plus court. Mais donc voilà, c'est petit à petit, on apprend, et surtout en lisant les articles des autres publications faites par des personnes qui sont des chercheurs qui sont déjà très connus. Donc c'est un peu comme ça qu'on va l'apprendre.
J'ai une dernière question pour terminer cette émission. Quel conseil donnerais-tu à des jeunes qui seraient intéressés pour faire de la recherche ?
Alors... aujourd'hui, la recherche, c'est important. Et c'est important surtout l'environnement, l'ambiance dans laquelle on travaille. Donc, c'est difficile à voir ça avant, parce que c'est un peu difficile de connaître le labo avant d'y aller. Mais Surtout, je sens mes collègues, c'est pas mon cas, mais mes collègues, il y a des collègues qui sont pas toujours contents de l'ambiance, de ces encadrants, si on parle d'un doctorat. Donc, il y a certains aspects, paramètres qu'il faut considérer, peut-être à des gens qui sont déjà sortis du labo, pour éviter des. Parce qu'il y a des labos et des labos. Donc, il y a des labos qui sont super et des labos dans lesquels tout est contre tout le monde est contre tout le monde. Donc, je pense que vraiment, si quelqu'un aime la recherche, oui, c'est important de la faire, mais c'est important aussi les conditions de travail. Donc, voilà. Le conseil est de voir avant. Mais je répète, ce n'est pas mon cas. Moi, je me trouve très bien dans mon labo avec les collègues, avec mes professeurs. Et après, pour la recherche, si quelqu'un est vraiment poussé à faire de la recherche, ben voilà, il faut y aller. Et parce que c'est ce type de gens qui peuvent apporter un contribut concret et pourquoi pas même des innovations dans le monde. Donc des choses qui sont vraiment importantes pour tout le monde, pour toute la société.
J'ai une autre dernière question du coup. Est-ce que pour toi l'entraide entre chercheurs justement c'est essentiel?
L'entraide?
L'entraide, okay. Le fait de s'entraider au quotidien, que les personnes t'apportent peut-être leur point de vue au quotidien, oui. ou t'aident sur des problématiques que tu n'arrives pas à résoudre.
Bah, bien sûr, parce que une chose qu'on dit souvent dans les bureaux, dans les labos, c'est qu'en fait, il y a une bonne partie de la recherche qui s'est faite en discussion. Donc en discussion avec, bien sûr, tes encadrants, mais même avec des autres collègues qui ne connaissent pas ton sujet et qui peuvent te donner un avis subjectif, bon, qui est à soi-même, à eux-mêmes, et c'est super important parce que voilà, tu peux voir une chose d'un point de vue différent et ça permet souvent de trouver des solutions à des problèmes. Donc oui, bien sûr, j'aime bien ça.
Bah merci Sabatino pour toutes ces réponses. On se donne rendez-vous fin mars pour la prochaine Maté Radio. Et en attendant, bonne soirée à toutes et à tous.
Merci, bonne soirée.